Ok, salut la team rentable, bienvenue dans cette vidéo. Alors là, maintenant, il faut qu'on redéfinisse ensemble deux notions super importantes qu'on va revoir tout le temps. Et deux choses qu'il faut que tu comprennes tout de suite et que tu intègres tout de suite pour tes recherches immobilières. Il y a deux choses. La première, c'est le cash flow et la deuxième, c'est la rentabilité. Tu as sûrement déjà vu marqué plein de fois sur Internet le cash flow, la rentabilité, la rentabilité. Il faut acheter à 8, il faut acheter à 10, il faut acheter à 12. Est-ce que c'est net? Est-ce que c'est brut? J'en sais rien, je suis perdu. Enfin, c'est toujours les mêmes sujets, les mêmes questions qui reviennent. Je vais te donner un indicateur. C'est notre indicateur préféré, c'est celui qu'il faut qu'on utilise tout le temps. C'est pas compliqué. Et on en a parlé juste avant, dans la première vidéo, si tu l'as vu. Cash flow, et j'avais dit que je ne le disais plus, mais je le dis encore une fois. Net, net. La dernière fois, après je ne le précise plus, on est bien d'accord que dès qu'on parle de cash flow, on parle de cash flow net, net. Ok? Donc, pourquoi ça va nous intéresser par rapport à la rentabilité? Pourquoi on va regarder le cash flow et pas forcément la rentabilité? Parce que le cash flow, c'est l'argent qu'on génère, c'est la trésorerie qu'on se met dans la poche. Et le cash flow net net, puisque à chaque fois qu'on parle de cash flow, on parle de net net, je ne veux même pas entendre parler de brut, c'est l'argent, la trésorerie, la richesse qu'on a créée. Ok? Ce cash flow net net, on l'a vu, va pouvoir nous financer de nouveaux actifs ou hein, de l'épargne. Ok? Alors, il n'y a pas de règle. Est-ce que je finance de l'actif? Est-ce que je finance de l'épargne? Est-ce que je finance de l'actif? Est-ce que je finance de l'épargne? Ce qu'il faut que tu saches, c'est que au début de tes investissements, au début de ton parcours d'investisseur rentable, au début de cette académie, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu sois en sécurité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de te faire planter, on n'a pas envie que tu te plantes. On n'a pas envie que dès qu'il arrive un problème, parce que tu vas voir que ça va arriver. C'est comme ça, la vie de l'investisseur, la vie de l'investisseur immobilier. Il y a des trucs qu'on n'anticipe pas. Une chaudière qui pète, un dégât des eaux, un problème de toiture, un problème dans les fondations, j'en sais rien, une fissure, un locataire qui ne va pas payer. Alors on va voir ensemble hein, toutes les possibilités pour contracter ça, la sélection du locataire, etc. On va voir plus tard ensemble. Mais voilà, il peut arriver et il va arriver. Des fois, un imprévu. Ne serait-ce qu'un locataire qui s'en va, parce que bah il s'en va, et tu mets un mois à retrouver un nouveau locataire. Ça fait un mois de loyer perdu, tu vois. Donc tous ces imprévus-là, on va apprendre à les chiffrer après. Mais il faut que tu comprennes déjà le principe que pour être en sécurité, ça, c'est capital. L'épargne, c'est important, surtout au début. Après, quand tu as une assise financière plus importante, bon, bah, tu as des actifs, et tous te génèrent de l'argent. On le verra aussi un petit peu plus tard dans les niveaux avancés de cette formation, mais quand on s'est fait pas mal d'actifs avec l'immobilier, ben on peut se faire justement, on peut commencer à se diversifier et à se créer de nouvelles sources de revenus. Et plus on a de sources de revenus, plus on s'enrichit vite, etc. Donc tout ça, on le verra aussi plus tard et comment faire. Mais quoi qu'il arrive, au début, plus tu es au début de ton parcours et plus tu es en risque. Il y a un truc qui gomme le risque, c'est ça, c'est l'épargne. L'épargne, c'est quoi? C'est juste de l'argent de côté. Donc, pour que ça rentre dans la catégorie épargne, pour que ça rentre dans la catégorie argent de côté, pour que ça rentre dans la catégorie je suis en sécurité, il y a un critère. Il faut que ça soit débloquable rapidement. Donc, que ça soit un livret A, que ça soit une assurance vie, que ça soit même éventuellement des investissements en bourse à condition qu'ils soient bien faits, type portefeuille, type permanent de portfolio, type tracker, etc., qui peuvent perdre de la valeur mais qui sont liquides. Qu'est-ce que c'est qu'un investissement liquide? C'est un investissement que tu peux retirer facilement. C'est un investissement qui s'échange facilement. Typiquement, l'immobilier n'est pas très liquide. Pourquoi? Parce que j'achète aujourd'hui un immeuble. Bah, si je dois le revendre demain parce que je suis pressé, parce que j'ai une urgence, je ne vais pas pouvoir. Parce que même si je trouve très rapidement, en une semaine, en 2 semaines, un acheteur, il va falloir le temps de faire signer les papiers, le temps qu'il passe à la banque, peut-être la vente elle va sauter, peut-être le compromis, peut-être le financement, tout ça on le verra dans les modules suivants. Et puis après on va passer chez le notaire, etc. Bref, il va se passer un temps X entre, si tout va bien, dans le meilleur des mondes, 3 semaines et 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, avant que je vende mon bien immobilier. Donc typiquement, l'immobilier n'est pas liquide. L'immobilier a plein d'autres avantages, mais pas celui de la liquidité. Donc l'immobilier, on le verra dans la sélection des biens, il y a des façons d'être en sécurité, il y a des façons d'augmenter le critère sécurité, mais c'est bien moins puissant en termes de sécurité qu'un placement liquide. Typiquement, une assurance vie, ou si je veux retirer mon assurance vie, même si ma banque est lente, en une semaine ou deux, j'ai récupéré mon argent. Un livret, ou juste à cliquer sur virement pour récupérer mon argent. Un portefeuille boursier, ou même si finalement, s'il est intelligemment fait et intelligemment équilibré, même s'il perd 50% de sa valeur dans le pire des cas, bah, j'ai à cliquer sur un bouton et je récupère. Tu vois. Donc, l'épargne te laisse en sécurité. Donc, et c'est pour ça qu'on s'intéresse au cash flow net-net, à l'argent généré, parce qu'il va rentrer aussi pour partie dans cette case-là. Et j'ai souvent coutume de dire aux débutants, et c'est une métrique que tu peux garder en tête si tu débutes, d'avoir un an d'esprit tranquille. Et surtout quand tu débutes dans l'immobilier. C'est beaucoup moins vrai après, hein, quand tu as 40 appartements, ça ne sert à rien d'avoir un an d'esprit tranquille. Ça ne sert à rien d'avoir un an de loyer de côté. Mais quand tu débutes 1, 2, 3, 5, 10 appartements, c'est bien d'avoir un an d'esprit tranquille. C'est-à-dire, un an, j'appelle ça l'esprit tranquille parce que oui, bah parce que l'épargne, c'est un parapluie, tu vois, le cash. Cash is king, hein, encore une fois, on va beaucoup en parler dans cette académie du cash. C'est un parapluie. Donc, si tu gardes cette métrique au début, quand tu débutes, d'avoir un an d'esprit tranquille, d'avoir cette fameuse épargne, tu es en sécurité. Donc, on le verra, quand on fait de la trésor positive, une partie en épargne, une partie en financement d'actifs. Et c'est tout simplement pour ça qu'on s'intéresse au cash flow. Parce que c'est la mesure de l'argent qu'on a généré. Alors ensuite, avec la notion de cash flow, on a une deuxième notion dont tout le monde parle, notamment la banque, qui est celle de l'autofinancement. Autofinancement. Ok, donc l'autofinancement, il y a finalement deux types d'autofinancement. Il y a ce que j'appellerais vulgairement l'autofinancement vrai, et l'autofinancement bancaire. Alors, je vais marquer banque. Ok ? Donc l'autofinancement vrai, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on a vu avant. C'est le cash flow net-net. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je génère de l'argent tous les mois, maintenant et pas dans 20 ans, c'est toujours le leitmotiv magique, à partir du moment où je génère de l'argent tous les mois, j'ai du cash flow vrai. J'ai du cash flow net-net, pardon, j'ai du cash flow tout court, et j'ai un autofinancement vrai. C'est-à-dire que mon appartement est payé par mon locataire, ou mon immeuble, hein, peu importe, hein, est payé par mon locataire, et avec ce loyer, j'arrive à tout rembourser. Et mon crédit, et mes charges, et mes impôts, etc. La totalité, bref, tout ce que je dépense, tout ce qui est généré par le fait d'avoir cet actif-là, est remboursé, et il me reste encore de l'argent à la fin. Cash flow net-net. Donc ça, c'est l'autofinancement vrai, on comprend très bien. Ça, c'est le vrai autofinancement. Ensuite, on a l'autofinancement bancaire. Qu'est-ce que c'est que l'autofinancement bancaire ? Et ça, il faut que tu ouvres tes écoutilles parce qu'on va s'en servir beaucoup et notamment dans la négociation avec les banques. L'autofinancement bancaire, c'est 70% des loyers qui servent à couvrir le crédit. Ok ? Alors, je m'explique. Supérieur ou égal au crédit. Ok ? 70% des loyers qui vont être supérieurs ou égaux au crédit. C'est-à-dire que la banque va considérer que le bien est autofinancé, on s'en moque si ça sort du cash flow, etc. La banque va considérer, c'est son calcul, que le bien est autofinancé, et donc ça va augmenter tes probabilités qu'elle te prête et qu'elle te reprête, etc. Ça, on le verra après. Mais elle va considérer que ton bien est autofinancé si 70% de tes loyers suffisent à rembourser la mensualité de crédit. Ok, je prends un exemple. Ta mensualité de crédit, c'est 700 euros. Okay, tous les mois, tu donnes 700 euros à la banque. Tu loues, on va partir pour un immeuble, par exemple. Donc, ta mensualité, c'est 700 euros. Tu loues cet immeuble, 1000 euros. La somme de tes loyers, c'est 1000 euros tous les mois. 70% de 1000 euros, 700 euros. Là, c'est un autofinancement pour la banque. Pourquoi ? Parce que tu touches 70% de 1000 euros, hein, donc 700. Et ta mensualité, c'est 700. Donc, bah c'est bon, 70% de tes loyers suffisent à rembourser ton crédit. Et c'est même mieux si on arrive à faire mieux. C'est-à-dire, si ta mensualité, c'est 700, par exemple, toujours, elle n'a pas changé, mais tes loyers, c'est plus 1000, c'est 1200. Bah là, du coup, il te faut moins de 70% de tes loyers pour rembourser ton crédit. Et puis, si tes loyers, c'est 1500, bah, il te faut encore moins que 70% de loyers pour rembourser ton crédit, et ainsi de suite. Si tes loyers, c'est 1600, j'avais dit 700 de crédit. Si tes loyers, c'est 1400 et ton crédit, c'est toujours 700 tous les mois, bah 50% de tes loyers suffisent à rembourser ton crédit. Ça, c'est un autofinancement bancaire. Alors, pourquoi la banque a décidé 70%? Alors déjà, 70%, c'est un chiffre qui est vrai et faux. C'est-à-dire que suivant les banques et suivant ton profil, parce qu'on le verra ensuite, dans les banques, c'est à la tête du client. Et on apprendra à être le meilleur client, on apprendra à être le meilleur élève. Mais c'est vraiment à la tête du client. C'est-à-dire qu'on va pouvoir te dire un truc à toi et le client d'après, on ne dira pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le même profil, parce qu'il ne vaut pas pareil pour la banque, parce qu'il n'est peut-être pas dans la même agence, peut-être parce qu'il a un conseiller pro ou peut-être parce qu'il est en banque privée, etc. Bref. C'est un peu à la tête du client. Mais dans l'ensemble, au niveau débutant, avancé, on va dire investisseur commun des mortels, ça va être 70%. C'est souvent entre 60 et 80. Il y en a qui ont des critères plus larges, d'autres plus serrés. Mais souvent, on fait une moyenne et on calcule 70% pour que ce soit facile pour nous. Donc, 70% des loyers. Pourquoi la banque fait ça? Parce que la banque considère que quand on prend 70% de tes loyers, on a enlevé 30% donc, et ces 30% vont être utilisés pour payer tout ce que tu as à payer. Les taxes, les charges, les réparations, le risque, etc. Donc, la banque dit qu'il y a une poche de sécurité de 30% qu'on ne touche pas, on ne la prend pas en compte, c'est de la sécurité. Et on prend en compte 70%, tout simplement. Et c'est pour ça que les banques font ça. Donc, quand tu diras, et on le verra comment faire, quand tu diras à la banque « mon bien est autofinancé », ça ne veut même pas forcément dire que tu as du cash flow. Mais nous, on en veut du cash flow, hein. Je ne te dis pas qu'il n'en faut pas. Mais en tout cas, pour la banque, 70% des loyers suffisent. Donc, on commence à définir, tu vois, les critères de ce qu'est un bon investissement. Et tu vas voir que là, dans les premières vidéos, dans les premiers modules, on va définir un cadre autour de ce qu'il faut qu'on cherche. Parce qu'au début, surtout si tu es débutant, tu es là, il y en a partout, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où te lancer, tu es perdu, il y a trop de possibilités. On va définir un cadre, on va mettre des bordures dans ce qu'il faut que tu cherches. Donc là, on a nos premiers critères. Notre premier critère, il est là. C'est qu'on veut du cash flow. Ça, c'est clair. Et on verra comment le calculer précisément après. Mais en tout cas, on veut que notre investissement nous génère de l'argent. On veut de l'argent. Pourquoi? Pour soit se mettre en sécurité avec de l'épargne, soit générer des actifs et enclencher ce cercle vertueux d'actifs qui financent des actifs, qui financent des actifs. Dans le même temps, ça ne nous empêche pas de se débarrasser un peu de passifs. Et la deuxième chose, c'est qu'on veut aussi ce deuxième critère. Alors souvent, quand il y a celui-là, il y a celui-là. Mais des fois, quand il y a celui-là, il n'y a pas celui-là. Okay, nous, on veut les deux. On veut que 70% de nos loyers suffisent à rembourser notre crédit. Si c'est 50, si c'est 60, si c'est 30, c'est encore mieux. Mais en tout cas, minimum, on veut que 70% de nos loyers suffisent, hein, que la mensualité soit supérieure. Enfin, que la mensualité soit inférieure à 70%. Hein. On veut que 70% des loyers soient supérieurs ou égaux à notre crédit. On est bien d'accord? Donc, on veut ces deux critères. Ça, c'est un bon investissement de base. C'est-à-dire du cash flow positif et 70% des loyers suffisent à rembourser notre mensualité. C'est un autofinancement vrai et un autofinancement bancaire. Ensuite, tu as un troisième autofinancement, et celui-là, on n'en tiendra jamais compte. Et quand tu entendras parler de ce troisième autofinancement, tu pars en courant, ou alors en tout cas, tu fermes les écoutilles. Et c'est souvent les agents immobiliers qui utilisent cet autofinancement. C'est l'autofinancement brut. Et ça, on s'en fout. Ok ? C'est quoi ? Alors, je te le marque dans un coin, mais je vais te le barrer, tiens. L'autofinancement brut, c'est quoi ? Bah, ça, c'est typiquement l'agent immobilier qui dit, voilà, ce bien, il vaut tant. Votre mensualité, ça sera tant, les loyers, c'est tant, donc c'est rentable. Tu vois, par exemple, le bien, il vaut, le bien, il vaut X, la mensualité, c'est 500, le loyer, c'est 500, donc c'est autofinancé. Non, mec. Parce que là, justement, il a calculé un cash flow brut. Il n'a pas pris les charges, il n'a pas pris les impôts, etc. Donc, c'est pas autofinancé, c'est pas ça un autofinancement. Ça, c'est un autofinancement bullshit, brut, d'agent immobilier qui veut vendre son truc. Ça n'a jamais été un autofinancement. Le loyer, c'est 500, la mensualité, c'est 500, c'est autofinancé. Non. Même pour la banque, ça marche pas. Même pour la banque, si c'est 500 et c'est 500, bah ça fait 100% des loyers, ça ne marche pas. Donc, même pour la banque, ce n'est pas vrai. Donc, ça, ça n'existe pas, ok? Ça, on l'oublie, quand il y en a un qui nous dit ça, on ferme. On dit, c'est bon, je ne l'écoute pas, ok? Donc, ça, très important, ça nous donne les bases d'un bon investissement, ok? Deuxième chose, souvent, tu vas entendre parler et tu vas me parler de rentabilité. Alors, la renta, la fameuse renta. La renta. Alors, Yann, est-ce qu'il faut 5% de renta? Bon, ça, tu sais qu'il ne faut pas. Est-ce qu'il faut 10%? Est-ce qu'il faut 12%? Est-ce qu'il faut brut ou net? Est-ce que, voilà, la renta, qu'est-ce que je regarde? La renta brute, la renta nette, etc. Alors, je t'arrête tout de suite. La rentabilité, c'est un indicateur qui va, je ne vais pas dire qu'il ne va pas nous intéresser, ce n'est pas vrai, mais il va très peu nous intéresser. Si tu m'utilises le cash flow net, Hein, dès que je dis cash flow, c'est net net, ça rentre dans ton cerveau. Si tu m'utilises le cash flow et si tu m'utilises l'autofinancement bancaire, ça suffit. La renta, est-ce que la renta, est-ce que 10% de rentabilité te permet d'acheter des actifs? Est-ce que si je te donne 10%, regarde, est-ce que si je sors de ma poche 10%, ça va te payer quelque chose? Tiens, t'as un appartement à acheter, il te manque 10 000 euros. Est-ce que si je te donne 10%, ça va te payer 10 000 euros? Non, un pourcentage, ce n'est pas de l'argent. Un pourcentage, ce n'est pas des euros. Si tu me dis, Yann, j'ai cassé ma voiture, j'en ai pour 1 000 euros pour changer je ne sais pas quelle pièce, et si je te dis, bah tiens, j'ai 5% sur moi, ça ne paye pas. Ben voilà, tu as compris le truc. Les pourcentages, ce n'est pas de l'argent. Un pourcentage de rentabilité, ce n'est pas intéressant pour un investisseur qui veut scaler, qui veut enchaîner, qui veut augmenter son patrimoine. Le seul intérêt finalement pour nous de la rentabilité, ça va être de comparer deux investissements entre eux. Parce que justement, on est en pourcentage, on est sur une base 100, donc on peut comparer en effet la performance, entre guillemets, d'un investissement par rapport à un autre. Et encore mieux, on peut comparer la performance d'un investissement à 100 000 euros contre un investissement à 1 million d'euros. Parce qu'en effet, on va pondérer. Si notre investissement à 100 000 euros nous rapporte, je dis des chiffres au hasard, 12%, et que notre investissement à 1 million d'euros nous rapporte 12%, ben, tu vois, tu comprends l'histoire là? Il y a un côté, c'est 100 000 pour 12%, un côté 1 million pour 12%, peut-être que du coup, le risque est plus important sur 1 million d'engagements. Hein, on parle pas de crédit, c'est un exemple où tu paierais cash. Pour 1 million, tu vois, bah, peut-être que la performance est moins bonne. Tu vois, peut-être qu'on voudrait du 15 ou... Je te lâche des pistes, hein, te formalise pas sur les chiffres pour l'instant. Mais voilà, c'est le coût de l'opportunité, l'opportunity cost, on en parlera un petit peu plus tard dans cette formation. Mais quoi qu'il arrive, un pourcentage de rentabilité sert à comparer deux investissements. C'est-à-dire demain, dans le groupe privé, tu me dis « Yann, tiens, voilà, j'ai acheté tel immeuble à tant de pourcents de rentabilité et j'ai tant de cash flow. » Alors moi, je vais regarder le cash flow, je vais te dire « Bravo, tiens, tu as 800 euros de cash flow, félicitations. 800 euros de plus par mois dans ta poche, c'est pas n'importe quoi. » Et ça, c'est un vrai critère qui change la vie, tu vois. Et tu vas me dire « J'ai 12% de rentabilité. » Et je vais te dire « Bon, bah c'est bien, ça me permet, tiens, de comparer avec le dernier immeuble que j'ai acheté moi où j'étais à 11, tiens, il faut voir la différence. » Mais on s'en moque un peu, tu vois. On s'en moque un peu. Donc la rentabilité, c'est comme le cash flow. Il y a plusieurs calculs. La rentabilité brute, qui se calcule comme le cash flow brut, c'est-à-dire en prenant aucune charge. La rentabilité nette, qui se calcule comme le cash flow net, en prenant les charges. Et la rentabilité net-net, qui se calcule comme le cash flow net-net, en prenant la totalité des charges plus les impôts. Ça fonctionne pareil. Les calculs sont globalement les mêmes. Enfin, ça veut dire les mêmes choses, brut, net, net, net. Et d'un côté, on a de l'argent, des pièces, des sous, des billets. Et d'un autre côté, on a des pourcentages. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail là tout de suite des calculs. Je te donnerai des outils et on le fera ensemble qui sont capables de le calculer pour toi. Que tu saches que c'est loyer x12 sur prix d'achat x100. Bon, ben voilà, une fois qu'on a dit ça, ben voilà. Tu as un calcul de rentabilité, loyer x12 sur prix d'achat x100. Mais enfin, ça ne concourt pas du tout à ton enrichissement, tu vois. Moi, je vais te donner des trucs précis, des techniques et des indicateurs qui vont concourir à te faire prendre les bonnes décisions et à ton enrichissement. C'est-à-dire que demain, pour moi, tu me dis, bah Yann, tiens, j'ai un investissement à 12%, j'y vais ou j'y vais pas? Net, brut, on s'en moque. Allez, net. J'ai un investissement à 12% net, j'y vais ou j'y vais pas? Ben, je ne suis pas capable de te dire oui ou non. Faut que je creuse un peu plus. Pourquoi il y a 12% net, par exemple? Ok, 12% net, c'est une bonne rentabilité sur le papier, mais pourquoi? Est-ce que le risque est important? Est-ce que le secteur est pourri? Est-ce que c'est pas loué? Est-ce qu'il y a des impayés? Est-ce qu'il faut que tu sortes quelqu'un? Est-ce qu'il faut que tu fasses énormément de travaux? Tu vois, ça ne suffit pas cet indicateur. Comme on est d'accord, le cash flow net ne suffit pas non plus. Si tu me dis, tiens, demain, j'ai un investissement qui me rapporte 1 000 euros tous les mois, il va aussi m'en falloir plus. Mais toujours est-il que, de base, le cash flow veut dire plus de choses que le rendement. Le rendement n'achète rien, les pourcentages n'achètent rien. Donc, voilà pour cette vidéo rapide sur le cash flow, la rentabilité. On se retrouve tout de suite dans la prochaine et on enchaîne.